Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission dédiée à la culture sous toutes ses formes. Notre mission que nous avons acceptée est de vous livrer nos derniers coups de cœur qui nous ont fait voyager en Angleterre, aux États-Unis, dans des univers insulaires ou maritimes et aussi au pays des mots. Romans historiques, sagas, histoires d'amour ou de vengeance, science-fiction et jeux, autant de genres différents et passionnants. Nous aurons ainsi des romans, Fantastique histoire d'amour de Sophie d'Ivry, Joueuse de Benoît Philippon, Un monde sans fin de Ken Follett, Césambre d'Anne Gestern, Histoire d'une île de Tom de Yashar Kemal, La double vie de Dinah Miller de Zoé Brisby. Nous parlerons aussi d'un film Abyss de James Cameron à l'occasion de sa réédition en Blu-ray et d'un jeu de société Cracklist. Et aujourd'hui, nous sommes quatre à relever ce défi. Aurore, Willy et moi-même Anne et notre invité de marque qui nous a fait la grande joie de venir partager avec nous ses lectures. Mettons tout de suite fin à cet insoutenable suspense. Bonjour et bienvenue Monsieur le Maire dans cette émission.
Bonjour.
Et je vais commencer avec un roman français qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Fantastique histoire d'amour. C'est le septième roman de Sophie d'Ivry, une auteure reconnue pour allier l'art du récit et l'exploration de la société contemporaine. Et elle a la particularité de changer complètement de registre à chacune de ses œuvres. Elle se renouvelle constamment et de fait, elle nous surprend. Dans ce roman, on s'attend à une histoire d'amour, comme son titre l'indique. Eh bien, nous allons la voir, l'histoire d'amour, mais il va falloir être patient. Elle met du temps à venir et ce n'est pas pour nous frustrer, mais pour notre plus grand plaisir. Car avant d'y arriver, on aura un récit sagace sur le monde du travail, l'usine, la précarité des journalistes, la recherche scientifique et sur la solitude contemporaine. Et oui, tout ça. Tous ces thèmes seront enrobés dans une véritable intrigue policière, avec un suspense digne d'un excellent thriller, avec même des éléments relevant du fantastique parsemé de surnaturel. Dans une interview, l'auteur dit avoir construit son roman comme un gâteau napolitain, avec plusieurs couches. Le récit réaliste sous forme de satire sociale, l'intrigue policière à rebondissement, et enfin la comédie romantique. Dans ce mélange des genres, la narration alterne entre deux personnages qui prennent la parole tour à tour. On a d'abord Bastien, la quarantaine. Il sort d'une rupture difficile, mélancolique. Il est inspecteur du travail à Lyon, très investi dans son métier. Ensuite, Maya, la trentaine, journaliste scientifique indépendante, qui a une anomalie, une sorte de maladie plutôt handicapante. Elle perd tout le temps quelque chose, dont en l'occurrence un objet très important qui va la compromettre dans son travail. Ces deux personnages se croisent, se frôlent, sans vraiment se voir, jusqu'au jour où ils vont se retrouver liés dans une affaire assez abracadabrante. Le point de départ est une mission que doit mener Bastien, qui va le bouleverser son quotidien où il devra enquêter sur un accident de travail. Un ouvrier broyé par une compacteuse hydraulique dans une usine de recyclage de déchets. Bastien va retourner sur les lieux de l'accident et petit à petit va se sentir attiré par cette compacteuse. Une attraction irrésistible, irrationnelle, comme une pulsion de destruction dans ce trou noir magnétique. Dans le même temps, Maya, qui dans sa disparitionnite aiguë a perdu son poste, est chargée par sa tante, chercheuse au centre de recherche sur le nucléaire à Genève, de retrouver des cristaux scintillateurs aux propriétés étonnantes. La narration très rythmée déploie des péripéties liées à ce mystérieux cristal bleu au pouvoir extraordinaire. Et à travers cette histoire si singulière et réjouissante à la fois, Sophie d'Ivry développe la question de l'addiction, des besoins. C'est un roman plein de surprises, empreint de poésie, comme ses rencontres au parc de la Tête d'Or à Lyon, où le héros est fasciné par cette jeune femme gracieuse et évanescente qui interrompt son footing tous les matins pour nourrir les mésanges qui viennent picorer sur sa main. Sophie d'Ivry a le talent de condenser en quelques lignes la poésie d'un quotidien anodin et même de le sublimer. C'est un roman qu'on dévore, un vrai plaisir de lecture. On va aller dans le roman historique maintenant au XIVe siècle, grâce à Monsieur le Maire.
16e siècle. 16e siècle. Les guerres de religion, vues côté anglais, côté français, côté espagnol, et même aux Pays-Bas. Alors, c'est une saga. Ken Follett est un auteur anglo-saxon qui a un très large public, qui a publié des milliers de pages. Et ici, en quelque sorte, il crée un contraste dans cet ouvrage qui fait un petit millier de pages. Il fait un contraste entre la violence des affrontements et la recherche d'un équilibre. Ce contraste est illustré par les personnages, par les familles qui sont suivies pendant la durée du roman, c'est-à-dire 80 ans, n'est-ce pas ? Il y a différents épisodes en différents lieux qui partent de manière indépendante, puis qui se connectent tous. Et en particulier, des figures historiques. Par ailleurs, des figures de fiction. La trame historique, elle est extrêmement précise. Vous allez à l'hôtel de ville de Compiègne, vous allez dans la salle d'honneur, vous avez un retable qui représente la passion du Christ, en panneau d'albâtre, réalisé en Grande-Bretagne dans les premières années du XVIe siècle, c'est-à-dire juste avant Henri VIII. Henri VIII décide, puisque le pape ne veut pas rompre son mariage, de se séparer de l'Église et entre dans une période nouvelle puisqu'il se rallie à la Réforme. Je quitte notre retable, mais simplement pour dire que ces figures sont bannies en Grande-Bretagne et demeurent sur le continent. Et puis, il y a une période de transition, parce que Henri VIII meurt, Marie Tudor, sa fille, rétablit le catholicisme. Et elle le fait en s'appuyant parfois sur des méthodes violentes. Et vous avez dans le livre des figures étonnantes comme un évêque qui est en coalition avec le principal marché de la ville. Ça se passe dans une petite ville britannique qui est mythique, mais enfin que l'on comprend, que l'on décrit très bien. Et on voit le choc entre deux familles commerçantes. Et au sein de l'une de ces familles commerçantes, le héros, qui lui-même va vivre des aventures et des amours extraordinaires, et très durable et très fidèle d'une certaine manière, et qui devient le conseiller de celle qui succède à Marie Tudor, c'est-à-dire Élisabeth Ière. Élisabeth Ière, comment est-ce qu'on la surnommait ? La Reine Vierge. Élisabeth Ière qui arrive avec une vision, elle est reine très jeune, et avec une vision qui est celle du respect mutuel. Surtout que l'on permette aux religions de s'exprimer et que personne ne soit coupable de meurtre ou d'actes de violence au nom de sa religion. Et puis on voit au fur et à mesure avec ce qui se passe du côté français, la Ligue, les Guises, les rois qui se succèdent, la puissance de Catherine de Médicis qui dit le romancier, s'efforce, elle aussi, de modérer les expressions et de trouver des solutions politiques. Et puis, des épisodes extraordinaires, l'invincible Armada qui veut envahir l'Angleterre, le massacre de la Saint-Barthélemy. Enfin, tous ces épisodes qui se succèdent dans la trame du livre de Ken Follett. Alors, comment est-ce qu'il termine ? Puisque, bien sûr, il a sans doute plus de lecteurs américains que britanniques. Enfin, il a les deux, c'est la même culture. Eh bien, ça se termine comment ? C'est le héros qui devient vieux, qui a quitté ses activités, qui est dans sa ville natale et qui reçoit son petit-fils. Son petit-fils, mais qui n'est pas issu de sa première épouse. Là, je ne peux pas entrer dans le détail sentimental. Et puis, son petit-fils lui dit « Je vais partir et je vais embarquer pour... parce que je ne me sens pas à ma place en Angleterre aujourd'hui. Je vais embarquer sur un bateau. » Alors, comment s'appelle ton bateau ? Il s'appelle le Mayflower. Voilà. Et le bouquin se termine là-dessus. Donc, je recommande. Belle lecture d'été. Hein, sincèrement, au soleil. Alors là, en ce moment à Compiègne, c'est pas trop le moment, mais belle lecture d'été.
Qui a l'air passionnante, en tout cas. C'est vrai que ça donne envie. Merci beaucoup. On va parler d'un film maintenant.
Alors là, on passe tout à fait dans une autre histoire, plus contemporaine. C'est celle de James Cameron, réalisateur canadien, bon, qui a une grosse actualité en ce moment en France, puisqu'il y a une exposition assez importante qui lui est consacrée à la Cinémathèque française. L'art de James Cameron, voilà, tout simplement, donc, qui reprend un peu les esquisses de jeunesse, des dessins, des œuvres d'art, et tout ce qu'on appelle maintenant le concept art, selon cet anglicisme, tout l'art conceptuel qu'il a pu développer au cours de ses films, avec des costumes, etc. Alors James Cameron, hein, pour la petite histoire, c'est quand même un réalisateur très important, puisqu'il a réalisé des films, enfin, qui ont fait des millions d'entrées, réalisateur d'Avatar, 1 et 2, qui devient une franchise, réalisateur d'Aliens le Retour, qui est un des meilleurs opus de la série. Abyss, dont on va pouvoir parler dans quelques instants, qui est un film de 89. Et tous ces films en ce moment sont... Et donc, Titanic aussi, évidemment, en 97, hein, parce que bon, ça c'est vraiment l'incontournable. Donc lui, c'est un cinéaste qui se lance des défis fous. Il a démarré, il était mécanicien, chauffeur de camion, tout simplement. Et il est rentré dans le milieu du cinéma par l'intermédiaire de Roger Corman. Alors Roger Corman, hasard du calendrier, malheureusement, est décédé le mois dernier. Extraordinaire réalisateur aussi, qui a fait débuter un tas de gens, dont James Cameron. Et Cameron, lui, bah, comme ça, il s'est lancé dans le cinéma, sans formation particulière, mais bon, c'est quand même un technicien de plateau. Il sait tout faire, hein, le montage, la réalisation et désormais la production avec ce qu'il a pu engranger. Et c'est un passionné de plongée sous-marine. Bon, moi, c'est un milieu que je connais très très peu, mais bon, c'est vrai qu'on a découvert grâce à lui, il a lancé des expéditions pour retrouver l'épave du Titanic, etc. Donc il a été partie prenante de tout cela. Donc ça a été vraiment des projets qui peuvent durer pendant des années et qui le monopolisent énormément. Donc, globalement, il n'a pas une énorme filmographie, hein. Il y a une vingtaine de films, beaucoup des reportages, des documentaires. Et puis, bon, bah, ces grosses productions pour lesquelles il est resté célèbre, et dont Abyss. Alors, c'est intéressant parce qu'en ce moment, tous ces films ressortent sur des supports physiques, hein, parce que le support physique aujourd'hui, c'est une vraie question, et ils disparaissent de plus en plus. On a Disney, par exemple, qui bientôt va arrêter... En tout cas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, disons, ils arrêtent totalement de faire du support physique. Tout passe en streaming, sur les plateformes de téléchargement. Et en France, même Disney, actuellement, n'est plus... C'est la société ESC Distribution, je crois, qui distribue désormais leurs films. Donc, on a, pour les amateurs de home cinéma ou de cinéphilie à la maison, c'est très important qu'il continue à y avoir du support physique, enfin, notamment nous, dans les bibliothèques, on en parle souvent, pour que les gens puissent continuer à voir ces films. Parce que souvent, ils sont pas réédités, on ne les trouve plus, on les trouve en VHS ou sur certains supports. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est si vous avez ces films chez vous, gardez-les précieusement, parce que parfois, ils ont été réédités en DVD, ils ne seront plus jamais réédité. On ne les trouve pas sur les plateformes de téléchargement. Il y a un tas de films américains, français qu'on ne trouve absolument plus. Donc s'il n'y a pas un éditeur qui décide comme ça, ou des amateurs avec du crowdfunding, excusez-moi pour cet anglicisme, qui décide de réaliser ces films, on ne les trouve plus. Bon, pour les films de Cameron, on se fait pas de soucis, hein, c'est des grosses productions, donc on sait que c'est 20th Century Fox, donc eux, ils rééditent très, très facilement. Alors ce film, pourquoi Abyss ? Bah, j'aurais pu en choisir un autre. Bon, c'est tout à fait symptomatique de l'univers de Cameron, hein, c'est le monde sous-marin, voilà. L'intrigue, c'est tout simple, enfin, c'est toujours le truc à l'américaine, à la film d'action. Les membres d'une plateforme de forage, ils sont là, ils sont par hasard, ils sont sur le terrain. L'armée les saisit parce qu'un sous-marin nucléaire est en difficulté, est en perdition dans une fosse abyssale, et ils sont réquisitionnés pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vous déflore pas l'action. Bref, ça commence comme un film d'action, etc. Puis après, vers la fin, ça vire plutôt un peu à la rencontre du troisième type, à la Spielberg. Donc ça, c'est très messianique, c'est très américain. Mais bon, pour les amateurs d'action, etc., c'est assez incroyable. Pour l'époque, parce que bon, Cameron, bon, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être un réalisateur très compliqué, très difficile, assez tyrannique avec ses équipes. Mais bon, c'est un gros bosseur. Il y a souvent des acteurs, bon, ils ont des impressions un petit peu divergentes sur lui, soit c'était formidable, etc., ou d'autres, ah non, on a vécu l'enfer et tout, bon. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui arrive toujours jusqu'au bout de ses rêves. Alors là, bon, évidemment, c'est, quand on voit les making-of, c'est pharaonique. On réquisitionne en Caroline du Sud un site nucléaire désaffecté. Il y a là un immense bassin, on le remplit de millions d'hectolitres d'eau, et puis après on fait ce film, enfin c'est complètement fou. Certains acteurs manquent de se noyer, ils sont pendant des heures dans des combinaisons sous-marine, etc. C'est quelque chose d'absolument fou. Et puis bon, bah, il sait tout faire. C'est l'art de l'illusion, hein, James Cameron. C'est vraiment comme Méliès. On utilise toutes les techniques, le made painting, les maquettes, le stop motion, tout ce que vous voulez. Il sait tout faire. Et tout ça, c'est, quand on voit le résultat, c'est assez extraordinaire. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur James Cameron.
C'était très instructif, merci. On va faire une petite pause musicale avec un titre extrait du dernier album d'Étienne Daho. C'est une des chansons les plus fortes de l'album, Respire. Elle parle de l'après-confinement, elle évoque cette envie d'oxygène, une envie de vivre avec une belle fluidité.
L'homme se consume à tout petit jeu, le charbon et les paupières en feu, sa anesthésie de poison sans visage, et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages. Et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive comme une peau de satin de serpent. Sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser. Et l'aveuglé de paillettes d'acier, lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire, ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel bleu clair de Paris. Les drapeaux hissent et flottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Je vais vous parler maintenant du roman « Ces ombres », le dernier roman d'Hélène Gestern. Le narrateur, Yann, est enseignant en histoire à la Sorbonne, fraîchement divorcé. À la mort de son père, il hérite de la maison familiale de Saint-Malo, le long du Sillon, en face de l'île de Ces ombres. Il part s'installer dans cette magnifique villa que son arrière-grand-père Octave avait fait construire. Ce dernier était célèbre pour avoir fondé en 1904 l'entreprise de transport maritime Quérembrun, fleuron de la cité corsaire. Ingénieur motoriste, fasciné par la technique et le progrès, il a consacré sa vie à concevoir des bateaux à moteur, capables de transporter des passagers en toute sécurité dans les flots capricieux de la Manche. La compagnie a été transmise de père en fils. Si son grand-père et son père furent dévoués à l'entreprise, le narrateur lui a coupé les ponts depuis le décès de son frère. Et alors qu'il a cédé ses parts à sa cousine et ne s'est jamais vraiment intéressé à l'entreprise, Yann découvre dans la maison des cartons d'archives, et il se plonge soudain avec frénésie dans les dossiers, les registres de comptes, les inventaires du début du XXe siècle et l'époque de l'aventure maritime. Fasciné par l'ambition et la clairvoyance de son aïeul et par ses deux étonnants associés. D'archiviste, Yann se fait conteur et en bon historien qu'il est, il va démêler les fils de tous ses souvenirs. Entre les lignes et les chiffres se raconte l'histoire des Quérembrins aux secrets bien gardés, où des zones d'ombre viennent ternir l'histoire de cette éclatante réussite, que Yann entreprend de lever pour transmettre à son propre fils. Et ses recherches l'orientent vers la piste d'un double mystère, celui d'un meurtre et d'une disparition. Le récit biographique tourne autour du roman à énigmes, un puzzle ardu que Yann tente de reconstituer en faisant vite le lien entre l'histoire de sa famille et de la compagnie et celle de l'île de ses ambres et sa légende noire et dorée, qui joue un rôle clé dans cette enquête. Nous découvrons l'histoire incroyable de cette île, qui fut d'abord monastère, puis bagne et garnison allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et largement bombardée en 1944. À tel point qu'on la croyait détruite et à jamais, et longtemps interdite d'accès. À part d'ailleurs aujourd'hui une petite surface délimitée autour de sa plage, il est encore interdit de s'y promener en raison du danger provenant de la présence des engins explosifs. Hélène Gastern a une savoureuse manière de raconter, qui conjugue petite et grande histoire, toujours à partir de documents. Dans « Eux sur la photo », qui était déjà un superbe roman, elle partait de photos. Et dans « 555 », elle partait de partitions de Scarlatti, et ici d'archives. Naviguant entre passé et présent, entre les voix des vivants et des défunts, la narration prend son temps. Elle restitue à merveille l'atmosphère maritime, les embruns, les marées et les tempêtes imprègnent chaque page. C'est un très beau roman, vivant, vivifiant, qui rend hommage à la puissance de la mer, et aussi un bel hommage à la Bretagne, à ses habitants et à ses marins. J'ai été emportée par cette éblouissante saga familiale, Malouine, au souffle romanesque envoûtant. On va partir dans un roman qui parle de jeu maintenant et qui correspond très bien à Aurore, qui est une bonne joueuse de poker.
Merci Anne. Eh bien oui, Joueuse, c'est un livre de Benoît Philippon, édité en 2020. Quelle drôle d'année d'ailleurs pour publier un livre sur le poker, au moment où la plupart d'entre nous étions confinés. Le poker, considéré par la loi comme un jeu de hasard, mais par les joueurs comme un vrai sport, eh bien, a pris une nouvelle ampleur durant les mois sombres de la crise Covid. Étant moi-même joueuse, comme tu l'as dit, Anne, ce titre m'a interpellée, d'autant que la couverture est illustrée d'un visage de femme faisant un clin d'œil à travers une carte, un as de pique. Alors, dans le livre, il s'agit de Zach. Zach aime jouer. Il ne vit que pour ça. Il n'a d'ailleurs que ça dans la vie. Avec son pote Balou, un vrai frère pour lui, ils montent des arnaques et gagnent leur vie correctement en soutirant aux plus riches ou aux plus benés leur argent. Mais pour notre joueuse, celle autour de qui tout tourne, Maxine, c'est différent. Le poker est un jeu et un moyen d'atteindre un but bien précis. Mais encore faudrait-il qu'elle se trouve un partenaire digne de ce nom. Elle a entendu parler de Zach et fait en sorte de se retrouver à la même table que lui afin de le juger, de le déstabiliser et bien sûr de lui proposer une alliance qui vaut de l'or. Dotée d'un charisme et d'une assurance à toute épreuve, les boucles blondes de Maxine ne mettent pas longtemps à attirer l'attention de Zach. Mais Zach n'est pas dupe. Même s'il tombe sous le charme de la jeune femme, elle cache quelque chose et il découvrira tôt ou tard son bluff. Moi, j'ai beaucoup aimé ces trois personnages qui ont leurs caractéristiques propres, leur but personnel à poursuivre et leur propre quête. Ils sont uniques et en même temps, ils sont complémentaires. Maxine est le catalyseur de Zach et de Balou. Avec elle, tout s'accélère. C'est une figure forte qui a subi son lot de douleurs. Je n'ai pas l'habitude vraiment de lire des romans noirs, mais là, chaque page est une nouvelle nuit. Ça se passe dans des endroits sombres, sordides. Voilà, autour des tables de poker, il y a des personnages menaçants, des caricatures de mafieux, de malfrats. Et si nos personnages restent attachants, j'ai trouvé leur travers quand même bien trop exacerbé pour une vie normale. Mais c'est là tout le principe. Aucun d'eux ne mène ou ne minera jamais une vie normale. Ils ne sont pas faits pour ça. Leur vie leur a joué des tours qu'ils déjouent à leur manière et qu'ils tournent à leur avantage. Bien que plongée dans un univers masculin à la testostérone élevée, Joueuse est ponctuée de situations et de remarques féministes. Et c'est bien là le livre d'une joueuse. La femme, pas seulement la protagoniste, est mise en valeur, elle est vaillante. Une chose est sûre, on n'a pas le temps de s'ennuyer en suivant ces trois compères-là au fil des pages. Quand on croit souffler un petit peu, eh bien non, l'action nous emmène ailleurs, là où on n'avait pas pensé, et c'est quand même explosif. Petite anecdote aussi, moi je ne connaissais pas l'auteur Benoît Philippon avant d'ouvrir ce roman, et comme je suis une lectrice férue, il m'arrive souvent quand même de lire deux romans à la fois. Il se trouve qu'en lisant Joueuse, je suis tombée sur un passage où l'un des personnages lit un journal. Il semblerait qu'une vieille femme, une centenaire passée, ait été arrêtée pour tentative de meurtre, une sale histoire assurément. Mais en lisant ce passage, je me suis dit, c'est incroyable, je suis en train de lire un roman qui raconte exactement ça. Et en vérifiant, il s'agissait du précédent roman de Benoît Philippon, qui s'appelle Mamie Lugé. Je n'avais pas remarqué d'ailleurs que je lisais deux livres du même auteur, et en tout cas, Benoît Philippon, lui, s'est bien chargé de me le rappeler avec ce petit clin d'œil. Et voilà, moi, c'était ma façon à moi d'être bluffée par Benoît Philippon.
On va partir sur la mer Égée maintenant, avec un auteur...
Turc.
Très important, turc, oui. Yachar Kemal.
Alors, en effet, une petite île, très proche de la côte, qui s'appelle l'île Fourmi. Cette île était peuplée par des Grecs, de même que bon nombre de localités de la côte égéenne de l'Asie mineure, en Turquie. Et vous savez que 1923, le traité de Lausanne, qui fait suite à la Première Guerre mondiale, à la prise du pouvoir en Turquie de Mustafa Kemal Atatürk et à sa victoire contre l'armée grecque, les Grecs sont repoussés à la mer et la Turquie prend sa géographie actuelle, en quelque sorte. Et le traité de Lausanne décide un échange de population, l'un des grands échanges de population du XXe siècle, qui porte sur, en réalité, des centaines de milliers, probablement des millions de personnes. C'est-à-dire que tous les Turcs se trouvant en Grèce, par exemple en Crète, doivent obligatoirement, en quelques jours, rejoindre l'Asie mineure, où rien n'est préparé pour les accueillir. Et tous les Grecs, qui depuis des millénaires se trouvaient de l'autre côté, et notamment dans quelques petites îles, par exemple l'île Fourmi, en quelques jours sont censés rejoindre la Grèce, qui n'est pas leur pays, et où rien de bien précis n'est prévu pour les accueillir. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on est au printemps, on est au mois de mai, pas comme ici. Printemps radieux, une nature absolument extraordinaire, des abeilles partout, des fleurs partout, une île extrêmement fertile, des grenadiers en fleurs, enfin tout ce que la nature méditerranéenne a d'extraordinaire dans l'explosion du printemps. Et la petite communauté grecque, elle est en quelque sorte sous le choc. Et puis, pendant quelques semaines, rien ne se passe. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible. Mais cela survient. Et l'île est totalement déserte. Tout le monde est parti. Il faut dire que les plus riches, eux, et il y en avait même de très riches, avaient anticipé et étaient partis quelques mois avant, mais en laissant tout. Et puis, tous les autres partent. Sauf une seule personne. Sauf Vassilis, qui se cache. Il se cache dans la nature, qui se cache enfin, il y a un secteur plus humide avec... ce qu'on appelle, nous, dans le midi, des cannes, vous voyez. C'est-à-dire, il se cache dans la nature. Il est pêcheur, comme tout le monde, sur cette île. Donc, il n'a aucun problème pour se nourrir. Il prend son bateau, qui est caché dans une grotte. Et il... il lance, et puis c'est tellement poissonneux qu'il revient très vite avec une belle pêche. Et... quelques brindilles d'olivier, il fait du feu, il grille son poisson. Bon. Et ça dure comme ça pendant... Mais c'est toute la description de la mer, du climat, de la nature, du vent. L'île est petite mais escarpée, c'est-à-dire que si vous allez en haut, vous avez un point de vue fantastique sur l'ensemble de la côte et du secteur. Et puis, il arrive un petit bateau avec un homme seul, avec des mâles, des belles mâles élégantes. Et lui est un homme élégant, bien mis, mais visiblement, il a une physionomie militaire. Et il s'installe, et Vassilis a fait le serment de le tuer. Parce que c'est un envahisseur. Et lui ne le sait pas, mais lui a peur, parce que sur cette île si petite, une autre présence humaine, il s'en rend compte. Alors, je ne vais pas tout détailler, parce que c'est très long, c'est à peu près 1000 pages, hein, les deux volumes de Histoire d'île, mais simplement dire que le thème, c'est les dégâts de la guerre, les dégâts mentaux, les dégâts de la guerre dans le psychisme des gens. On ne mesure pas ici ce que cela a pu être partout, mais par exemple en Turquie, pendant la Première Guerre mondiale. L'épisode qui est relaté à de nombreuses reprises dans ce livre, des 90 000 soldats gelés sur le front russe, c'est-à-dire sur des terres... proche de l'Arménie ou qui faisait partie, mais dans la haute montagne, 90 000 soldats gelés sur place. Très peu en réchappent, dont celui qui débarque sur l'île Fourmi. Et il raconte son histoire. Alors, la rencontre avec Vassilis se produira à un moment donné, elle ne se produit pas tout de suite. Et il y a beaucoup de figures, parce que progressivement, l'île est peuplée par des gens qui arrivent, par des familles. Qui arrivent tantôt des Turcs, des anciens combattants qui ont été mentalement détruits par la guerre, les Dardanelles, enfin tous ces épisodes, parce que en arrière-plan, il y a tous ces épisodes de la Première Guerre mondiale, et vous avez le contraste entre les dommages de la guerre et la beauté de la nature. Et en quelque sorte, la question fondamentale, mais pourquoi Dieu, qui a créé cette nature si merveilleuse, accepte-t-il que l'homme la détruise? Et donc, progressivement, des familles arrivent, des gens arrivent. Et alors, ils arrivent des deux côtés. Ils arrivent de la Turquie, de l'Anatolie, donc des populations déplacées, parce que avec la guerre, les familles se sont éclatées. Il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui pour rechercher ses proches. On ne peut le faire qu'en parcourant péniblement des centaines de kilomètres dans un pays très, très, très segmenté, dont le relief est souvent très, très contrasté, etc. Toutes les régions, vous savez, de la Turquie qui va de la Mésopotamie à la Thrace en Europe. Et donc, symboliquement, tous ces apports arrivent, sont représentés, ils arrivent sur l'île. Chacun raconte son histoire. Et il y a un phénomène de générosité extraordinaire qui se produit. Tous sont accueillis. Parce que le premier qui est arrivé, il est arrivé avec une bourse pleine d'or. C'est un bien de famille. Et puis en même temps, c'est une récompense qui lui a été faite parce que... Bon, je vais terminer par là, je ne vais pas tout raconter. Mais il a, à la fin de la guerre, en tant qu'officier du côté des Turcs, combattu contre les Français qui, venant de Syrie, occupaient une partie du territoire du sud-est de l'actuelle Turquie. Donc la ville de Urfa, la ville d'Abraham, était occupée par des troupes françaises. Lui s'illustre. Il est décoré par le nouveau pouvoir turc et il reçoit une belle prime. Donc il arrive sur l'île et il a quelques moyens. Et à chaque fois qu'une famille arrive, il donne les moyens pour acquérir une maison abandonnée par un Grec, pour que cette communauté puisse vivre, puisse se souder. Donc vous avez l'extrême générosité, et puis des gens qui créent une communauté à partir de partout. Vous avez par exemple quelqu'un qui vient de Crète, qui est un grand bourgeois, un éleveur de chevaux, turc, dont toute la vie était en Crète, et du jour au lendemain, il est parti, il a tout laissé, sa fortune, les chevaux, la grande maison, les domestiques, tout ça. Et seul, avec sa femme est morte sur un bateau, elle a été jetée, son corps a été jeté à la mer. Et puis, il arrive avec ses deux filles, très belles. Et effectivement, il y a une romance qui s'esquisse entre celui qui est arrivé le premier et l'une de ses filles. Bon, je ne vous raconte pas la suite. Et c'est un livre, ce sont deux tomes et qui sont une progression constante. Alors, il faut du temps, il faut s'imprégner. Il y a beaucoup de répétitions. Parce que l'art de Yashar Kemal, c'est l'art du conte, en réalité. Et ceci plonge dans la tradition du conte, qui est très présente au Proche-Orient, notamment dans toute la partie qui est partagée entre des Bédouins, des Arabes, des Turcs, des Yézidis, des Arméniens, région extrêmement composite du point de vue des origines. Et le conte, c'est ce qui permet aux gens de se rencontrer, de passer des nuits entières à écouter à la fois de la musique, du chant et le conte. Et donc Yashar Kemal, il a adopté ce rythme et donc ça vient, ça revient. Il y a de longues descriptions, c'est très naturaliste en quelque sorte. Et puis en même temps, il y a de très beaux caractères et ce choc de la nature et de la guerre. Donc vraiment, 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 ça je me permets de le recommander chaleureusement, notamment à ceux qui ont une curiosité pour l'Est de la Méditerranée et pour ce creuset de civilisation.
On a ces deux livres à la bibliothèque Montrichon.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Eh bien, je vais prendre la suite avec un jeu. Je vais vous proposer un jeu de société. Nous connaissons d'ailleurs bien des types de jeux. On y joue tous, je pense, d'une manière ou d'une autre. Il y a les jeux de hasard, comme le poker dont on parlait tout à l'heure, avec le livre joueuse, les jeux éducatifs pour les enfants. Et dans la famille des jeux de société, il y en a pas mal aussi. On retrouve les jeux de plateau, comme le Monopoly, les jeux de stratégie, comme les échecs, les jeux dits de papier et de crayon, comme le petit bac, et voilà, les jeux de cartes, la belote, par exemple, je suis une grande fan aussi de belote, ou le Uno, qu'on connaît bien. En tout cas, depuis une dizaine d'années, l'industrie du jeu en France explose. C'est en constante progression, et c'est près de 1500 jeux qui sont inventés chaque année en France. D'ailleurs, le Festival international des jeux de Cannes est même devenu un rendez-vous incontournable en Europe. Parmi tous les jeux que nous avons cités, et de toutes les nouveautés qui assaillent les rayons des amateurs, il y a ce qu'on appelle affectueusement les petits jeux. Et Cracklist, le jeu dont je vais vous parler, en fait partie. Cracklist a été inventé par Pierre, papa d'une famille de 4 enfants. Il nous explique que chez eux, tout se jouait, que ce soit la dernière part de gâteau, la place dans la voiture, la corvette poubelle. Les engueulades, les fous rires, les bluffs, la mauvaise foi, ça on la connaît bien quand on est mauvais joueur, les débats débiles, voilà ce qui rythmait leur week-end, leur soirée ou même leurs vacances. Ensemble, ils ont eu l'idée d'inventer un jeu de cartes qui mélange subtilement le Uno, que tout le monde connaît bien, et le petit bac. Fini les catégories prénom, métier, pays ou ville, Cracklist nous propose une multitude de thèmes sur lesquels on va devoir trouver des mots en fonction des lettres affichées sur nos cartes. Le but, eh bien, c'est très simple, il suffit de se débarrasser de toutes nos cartes. Il va donc falloir ruser entre les lettres, les passe ton tour, les pioches une, deux, trois cartes, les échanges ton jeu avec moi, pardon. Et voilà, si la liste en cours ne vous plaît pas, qu'à cela ne tienne, vous sortez votre carte cracklist et vous en tirez une autre pour choisir le prochain thème. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas ? Avec ses règles et le mélange malin des deux jeux qu'on connaît bien, Cracklist est un petit jeu qui fait plaisir à toute la famille. C'est un jeu d'ambiance qui provoque de nombreux fous rires. Oui, parce que quand même, il faut voir tous les mots qui peuvent nous passer par la tête. En fonction des listes, ça peut être assez drôle. Et qui se joue à peu près en 15 minutes. Mais ne vous leurrez pas, vous ne vous contenterez pas d'une seule partie, ça c'est moi qui vous le dis. Vous pouvez retrouver ce jeu d'ailleurs lors du festival Arc en Jeu les 8 et 9 juin prochains pour le tester, ou même chez nos partenaires Le Délire et L'Entre-deux-Monde. Pour ma part, c'est L'Entre qui me l'a conseillé quand je cherchais un cadeau à offrir à une amie, et comme toujours, ils m'ont tellement bien conseillé que ben, du coup, j'ai dû après aussi moi mettre Cracklist sur ma liste de Noël parce que j'avais très envie de l'avoir à la maison. Voilà, voilà.
Et le Père Noël vous l'a apporté ?
Absolument. Oui. Parce que moi, je suis sage.
On y joue beaucoup en famille aussi, celui-là. Alors, j'avais envie de vous parler de la double vie de Dina Miller de Zoé Brisby, mais je vais vous en parler la prochaine fois, notre émission de juin, parce qu'on a quand même envie d'écouter encore Monsieur le Maire qui va nous parler d'une de ses bandes dessinées préférées, Corto Maltese.
Alors là, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent se sont plongés avec plaisir dans Corto Maltese. Vous allez de Venise à Salvador de Bahia en passant par par les Antilles, vous êtes en Mélanésie sur des sites paradisiaques, vous êtes en Mandchourie dans la guerre
Russo-japonaise,
oui, russo-japonaise, 1905, effectivement. Donc, trame historique extraordinaire. Et puis, ce personnage que Hugo Pratt a eu le génie d'inventer, qui est toujours décalé, n'est-ce pas ? Qui est toujours élégant, même dans toutes les circonstances les plus, même au milieu de la jungle, au milieu de la pourriture, toujours élégant, et imperturbable, et dont le visage exprime très peu, et qui est à la fois un actif et un méditatif, l'un et l'autre. Avec ces symboles extraordinaires que sont les oiseaux qui tournent autour de lui dans le ciel. Et je pense en particulier à ce moment, mais je pense que Willy, me semble... Sa physionomie, très, très, très...
Un grand lecteur, un grand fan, évidemment. Bah, c'était le voilà. Jeune pilote, c'était toute notre enfance.
Eh bien, hein. voilà.
Pratt, c'était un mythe. Hein.
Voilà.
Ouais, oui,
effectivement, Corto, qui est adossé à une ruine celtique et qui voit beaucoup de choses défiler dans sa tête. Et il y a tellement de moments, franchement... Corto Maltese, on est très, très imprégné par ces ambiances. Alors, évidemment, par la qualité du trait, du dessin. Et puis, encore une fois, Venise, vraiment,
de
c'est
Venise,
là.
Les Celtiques, oui, tout ça, c'est des albums absolument extraordinaires.
Voilà.
Et puis, il y a toujours l'antagoniste, je crois qu'il s'appelle Rasputin. Hein,
alors, Rasputin, qui effectivement...
le grand méchant de l'histoire, mais en fait, qui est quand même un allié.
Il est méchant tout en étant attachant. C'est un méchant attachant. Alors, effectivement, enfin, ce sont des figures mythiques, hein, ce sont des paraboles. Et puis, vous avez ces jeunes gens perdus et ces bateaux et ces Allemands du bout du monde, ces Allemands oubliés, hein, puisque là on est pendant la Première Guerre mondiale et vous avez des officiers de marine style prussien les plus collémontés possibles sur petits bateaux oubliés de tout le monde Parce que, bien sûr, enfin, l'Allemagne avait quelques îles en Mélanésie. Et puis, bon, toute communication, tout contact a été perdu. Et ils mènent leur propre guerre. Bon, et puis, Cortot se trouve là. Et il y a toujours une certaine profondeur des relations humaines, des peintures psychologiques qui sont faites. Et tout ça est très allusif. C'est-à-dire que vous vous laissez embarquer. Et là, effectivement, je recommande dans un... Oui, bah sur une terrasse un peu ombragée ou dans le hamac, vous voyez. Voilà, c'est... Et puis, il suffit de lire une double page et voilà. Et puis, on recommencera plus tard.
Eh ben, plein d'envie de lecture, plein de belles idées pour cet été. Alors, on a parlé de Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry, Un monde sans fin de Ken Follett, du film Abyss de James Cameron, de Sésambre d'Anne Gastern, Joueuse Benoît Philippon, L'histoire d'une île de Yachar Kemal, du jeu Cracklist et de la BD Corto Maltese. Il est temps de vous annoncer nos prochains événements. Dès demain, venez découvrir à la bibliothèque Saint-Corneille l'exposition Sport et Sciences, l'Union fait la force. Cette exposition du CNRS sur les Jeux Olympiques met en lumière les recherches menées pour aider les sportifs à améliorer leurs gestes et leurs performances. Demain également, à 17h, venez assister au débat philosophique des petits socratiques, le Café Philo, dont le thème est Identité, Communauté, Humanité. Samedi et dimanche prochains, les 8 et 9 juin, de 10h à 18h. Ne manquez pas notre troisième édition du festival de jeux de société Arc en Jeu. L'occasion de jouer en toute convivialité dans le beau cadre du Jardin du Cloître. Mercredi 12 juin à 14h, la bibliothèque vous propose de découvrir et fabriquer un objet grâce à notre nouveau Fab Lab, équipé d'une imprimante 3D et d'une découpe laser. C'est une activité gratuite sur inscription à partir de 10 ans. Le prochain Cinéclep aura lieu le vendredi 14 juin à 20h15 avec le film culte Les chariots de feu de Hugh Hudson. Quant à nous, nous nous retrouvons pour les prochains rendez-vous culture samedi 15 juin à la bibliothèque à 11h et le vendredi 28 juin à 18h sur votre radio préférée Graphite. Un grand merci à Aurore pour son aide si précieuse, à Willy et à notre invité si spécial, Monsieur le maire. Merci infiniment. C'est un très grand honneur de vous avoir reçu. La porte du studio vous sera toujours ouverte si vous désirez nous confier de nouveau vos coups de cœur. Et si vous le souhaitez, je vous laisse les mots de la fin.
Eh bien, j'ai beaucoup apprécié cette émission et elle montre à quel point nos bibliothèques sont au cœur de la vie culturelle à Compiègne, hein, pour, je pense, toutes les générations. Des plus petits aux plus âgés. Vraiment, 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 les bibliothèques, Mourichon, Bellicart, Saint-Corneille, bien sûr, c'est au cœur de la vie compiénoise.
Tout à fait. On s'adresse à tout le monde et on est avec tout le monde. Merci beaucoup et bon week-end à tous.